On a commencé une étude sur la foi, puis tout ce qu'on veut dans tout cela, c'est qu'on apprenne à connaître c'est quoi la foi qui sauve, la foi biblique. Qu'est-ce que Dieu nous a révélé dans sa parole pour qu'on bâtisse notre croyance ou notre conviction intérieure, parce qu'on a vu la semaine passée les composantes. Ça prenait quelqu'un qui a la foi dans son cœur, mais la foi dans quoi? La foi dans l'écoute de la voix du Saint-Esprit et l'écoute dans les versets de la parole de Dieu qui est la Bible. Faut-tu mettre ta foi dans ce que Dieu a dit et dans ce que Dieu va te montrer? Parce que Dieu nous montre des choses individuellement, il nous appelle à d'autres choses. Il nous appelle dans son œuvre à le servir. Fait qu'il faut être à l'écoute de sa voix en même temps qu'à l'écoute de sa parole. Mais c'est une ferme conviction du cœur. La foi, c'est une ferme assurance, une démonstration. Ça se voit à l'œil qu'est-ce qu'il y a dans cette personne-là qui est différent, puis qui n'est pas pareil comme les autres, puis qui marche dans une confiance. Elle dit qu'elle s'en va au ciel. C'est-tu possible? Elle dit qu'elle est sauvée. Marcher avec assurance, tu sais que tu es sauvé. Pourquoi? Parce que tu ne te bases pas sur tes mérites à toi. Tu te bases sur l'œuvre accomplie de Jésus. C'est ça qui fait toute la différence. Fait que ça crée en toi une assurance dans ton cœur, puis tu peux le confesser facilement. Qui a de la misère à confesser? Si vous avez de la misère à confesser que Jésus, c'est le Seigneur, venez me voir après la réunion. Si vous avez de la misère à confesser qu'il est mort sur la croix, pardonnez vos péchés, bien, venez me voir après la réunion, on va en parler. Faut que tout le monde ait cette confiance-là. Je suis un enfant de Dieu, je suis sauvé, j'avance par la foi. C'est déjà commencé quand je l'ai accepté, Jésus. J'ai démontré ma foi publiquement, ce que je croyais dans mon cœur. Je l'ai confessé de ma bouche. Puis là, j'avance par la foi. Je m'appuie sur lui, je base ma confiance en ce qu'il nous a révélé dans sa parole. Puis là, on avance avec Dieu. C'est ça la foi, tu es convaincu. On veut développer l'idée de la foi, puis dans les études, quand on va la développer, ça va booster notre foi. Parce que les versets de la parole de Dieu, c'est dans le but de nourrir notre foi. On va le voir la semaine prochaine que la foi, c'est comme un muscle, ça se travaille. Plus tu le travailles, plus il grossit. Si tu le laisses au repos, mais il s'atrophie. Mais une foi atrophiée, ça fait pitié un chrétien qui a une foi atrophiée. C'est parce qu'il ne s'est pas nourri des vitamines du Seigneur. Parce qu'il faut que tu te nourrisses des vitamines du Seigneur, que tu fasses l'exercice du Seigneur pour grandir dans ta foi. On va voir ça la semaine prochaine. Aujourd'hui, c'est comment naît la foi qui sauve. Comment que ça naît dans le cœur, la naissance de la foi dans notre cœur? D'où est-ce que ça vient? Parce que c'est important de le savoir, parce qu'il y a des gens qui se basent sur toutes sortes d'idées. Ce qu'on va voir aujourd'hui, c'est des versets de la Bible. On va apprendre à connaître d'où est-ce que ça vient, la foi. Où est-ce que ça prend naissance? On a vu que la foi qui sauve, c'est la foi du cœur, en la foi de Dieu et en sa parole. Mais ça commence où? Si quelqu'un dit « Moi, je veux marcher par la foi », mais faut que tu saches certains éléments qui vont t'aider à comprendre où mettre ta foi. Tu es en étudiant, on l'a dit la semaine passée aussi, tu vas apprendre comment c'est fait une souris, mais va t'en acheter une, puis dépêche-la, puis tu vas voir plus en profondeur comment c'était fait. Mais la foi, c'est la même affaire. Tu veux savoir c'est quoi la foi? C'est un élément essentiel, la foi, parce que sans la foi, tu peux pas être agréable à Dieu. Faut que tu apprennes à connaître la foi qui plaît à Dieu, la foi qui sauve, parce qu'il y a beaucoup de croyances et de foi placées dans des mauvais endroits. Puis là, on a besoin de dépecer ce que la Bible dit, qu'on comprenne plus en profondeur. Venons-nous au monde avec la foi qui sauve? Première question, et on va voir des versets. Nous venons au monde avec la capacité de croire. On vient au monde avec la capacité de croire. On a vu un peu les deux semaines, on a parlé que tu te lèves le matin, tu as mis ta confiance en ton cadran, puis tu as attendu le matin qu'il te réveille. Tu t'es pas cassé la tête, va-t-il sonner ou pas. Tu as développé ta confiance que ton cadran va... va sonner le matin pour te réveiller. Tu as développé la confiance, tu embarques dans ton auto, elle démarre, ton auto part. Il y a plein de sujets dans notre vie qu'on fait par routine. On a une confiance que les choses vont marcher. Les choses, la vie est comme une mécanique. Il y a des choses qui se font à répétition, puis ça se fait naturellement, sans y penser. Tu as confiance. Pourquoi? Parce que tu l'as expérimenté. Tu as déjà mis des toasts dans ton toaster, tu as pesé sur le piton, puis au bout de tant de minutes, il sort. Tu as confiance, tu as développé une confiance dans ton toaster parce que tu t'es pratiqué plusieurs fois. La vie, c'est comme ça. On vient au monde avec la capacité de mettre notre confiance dans certaines choses. Je sais pas comment est-ce qu'un avion est fait, mais j'ai confiance que si j'achète mon billet pour aller en Floride, j'ai confiance que si j'embarque dans l'avion, dans le bon numéro de l'avion, là, du billet que j'ai acheté, j'ai confiance que je vais m'asseoir là, puis vouf, je vais me ramasser en Floride. J'ai même pas besoin de tout comprendre, les mécanismes, comment c'est construit. J'ai confiance. Puis ça fait partie de ce que Dieu a créé dans l'humain. On a la capacité d'avoir une confiance, de croire. C'est Dieu qui a mis ça là. Mais est-ce qu'on vit au monde automatique avec la foi qui sauve? C'est ça qu'on veut développer. On a la capacité de croire en des choses. Puis, en général, nous croyons ce que nous voyons. Tous les êtres humains sur la terre croient ce qu'ils voient. Thomas, c'est ce qu'il a dit. Si je mets pas mon doigt dans son trou, mais ça, c'est une réaction humaine de faut que j'aie des preuves pour croire. Puis là, il attendait de voir Jésus ressuscité, puis de voir sa main avec un trou, puis mettre son doigt dans le trou. Après ça, il se disait sûrement, je vais croire une fois que j'aurai mis mon doigt là. Mais ça, c'est la foi naturelle. L'ensemble des humains a la foi. Ils peuvent mettre leur confiance dans les choses humaines parce qu'ils l'ont vu que ça marchait. C'est pas nécessairement toujours mettre une confiance dans l'invisible ou dans l'inconnu. C'est dans des choses. La foi humaine, ça se bâtit autour de ce qu'on croit, de ce qu'on a vu. Puis sans la révélation de Dieu, sans que Dieu t'ait révélé, là, il nous est impossible d'avoir la foi qui sauve. T'as beau avoir appris en regardant la vie depuis que t'es au monde, t'as appris comment que la vie fonctionne, puis t'as mis ta confiance, tes parents t'ont pris, puis t'ont assis dans le siège d'auto, t'embarques avec tes parents. T'as confiance en toutes sortes de choses parce que tu sais que tes parents vont prendre soin de toi. Tu l'as vu, t'as confiance. Si tes parents t'ont maltraité, tu vas perdre cette confiance. Tu as confiance parce que tu as vécu des choses. Mais pour ce qui est de la foi qui sauve, la foi doit être démontrée ou enseignée ou révélée par Dieu. Parce que là, on est en train de s'avancer sur le monde invisible. Personne n'a vu Dieu. Il y en a qui ont vu des représentations, des rêves, des songes. Dieu les a parlé, Dieu a parlé à des prophètes, mais nous, personnels, on ne l'a jamais vu. Pourquoi que je croirais en Dieu? On commence à y croire quand on entend parler, puis là, on peut faire nos propres expériences, puis là, on demande des choses à Dieu, puis là, on sent des choses, on expérimente des choses. C'est parce que Dieu se révèle qu'on apprend à connaître Dieu. Tu viens pas au monde avec ça. Il y a une série de choses que Dieu va faire. Puis vu que tu es ouvert, tu vas en voir encore plus. Si tu es fermé, tu dis moins, je veux rien savoir. Puis là, tu te fermes dans cela, tu t'endurcis, tu te bloques. Tu bloques. Il y a beaucoup de monde sur la terre qui sont bloqués dans leur compréhension. On va le voir, il y a des versets qui en parlent. Dans 1 Corinthiens 2, le verset 9, ça nous dit, « Mais comme il est écrit, ce sont des choses que l'œil n'a point vues. » L'œil ne peut pas voir ces choses-là, que l'oreille n'a point entendu, qui sont point montées au cœur de l'homme, des choses que Dieu a préparées pour ceux qu'il aime, pour ceux qui aiment Dieu. Dieu a préparé des choses pour ceux qui aiment Dieu. Fait que s'il y a une personne C'est des choses que tu n'as pas vues avec tes yeux et avec tes oreilles, mais Dieu les a préparées pour ceux qui l'aiment. Fait que c'est, quand Dieu commence à se révéler une personne, la personne commence à être attirée, à s'en appeler, mais là, Dieu, il a de quoi à faire là, dans cette personne-là. Puis il y a des choses que Dieu a préparées pour cette personne-là. Parce que la personne aime Dieu, Dieu va se révéler encore davantage. L'esprit de l'homme, on a vu la semaine passée qu'on était formé en trois, comme en trois morceaux, notre corps, notre âme et notre esprit. Puis que la dimension de l'esprit humain, en général, commence par comprendre les choses de ce monde, à sa manière de voir les choses d'une manière humaine, mais qu'il fallait l'intervention de Dieu par son Saint-Esprit pour commencer à parler à notre esprit, pour que notre esprit commence à s'apercevoir qu'il y a quelque chose de plus que juste ce qu'on voit. Il dit, l'esprit de l'homme, s'il n'est pas éclairé par Dieu, il ne peut pas comprendre les choses de Dieu. Ça, il y a un verset qui le dit. Fait que si une personne, ça y monte en lui, il dit, « Oh, moi, je connais Dieu, puis je n'ai pas eu besoin de personne pour l'apprendre. » Puis là, il vit comme s'il est en orgueil, puis il se pense qu'il l'a atteint lui-même. C'est faux. Il n'y a personne, la Bible le dit dans le prochain verset, dans 1 Corinthiens 2, 11. Il dit, « Lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'esprit de l'homme qui est en lui? » De même, écoutez bien ça, « Personne ne connaît les choses de Dieu, » si ce n'est l'Esprit de Dieu. Si on est arrivé à un moment donné dans notre vie, là, dans notre jeune âge, comme ça a peut-être commencé juste plus tard, qu'on a commencé à allumer sur Dieu, là, des petites lumières qui s'allument dans nous. Ah! Pour moi, il y a un Dieu qui existe. Tu sais, tu commences à y penser. Mais ce petit commence à y penser là, c'est parce que c'est l'Esprit de Dieu qui a commencé à allumer des lumières dans ton esprit. Parce que l'esprit humain peut pas voir, comprendre les choses de Dieu. Toute la révélation que vous avez sur Dieu aujourd'hui ou sur sa parole, c'est l'Esprit de Dieu qui vous l'a montré. Tout ce que vous avez saisi comme vérité, c'est l'Esprit de Dieu qui vous l'a montré. Vous n'êtes pas venu au monde avec ça. Il a commencé une œuvre depuis que vous êtes au monde à vous injecter des idées, puis à vous changer tranquillement, puis à vous mettre des petites lumières qui s'éclairent, toujours parce que vous êtes ouvert, parce que Dieu ne force pas personne. Il donne des révélations, il donne des choses, et plus que tu es ouvert, plus tu vas en vivre, puis le contraire aussi, si tu te fermes, tu risques de te faire fermer la porte, comme le pharaon d'Égypte en passant. À la base, quand tu viens au monde puis la nature humaine, tout le monde, à la base, sont ignorants de la foi qui sauve. Comme je l'ai dit, on vient au monde avec la capacité de croire. On croit à toutes sortes de choses de ce monde parce qu'on a vu que ça marchait puis on a mis notre confiance. À un moment donné, t'as confiance, ton char va t'emmener. À moins que ton char, il moteur boc puis la transmission glisse. Là, tu n'auras pas la confiance de t'asseoir dedans. Tu vas douter que ton char va t'amener jusqu'où ce que tu veux aller. Mais si tout est, ça semble correct, tu t'es rassuré, puis là, tu embarques dans ton auto, puis tu pars. Dans les choses humaines, c'est comme ça. Mais dans les choses de Dieu, il a fallu que Dieu te les révèle. Dieu te le montre. Puis, dans Éphésiens, ça nous dit, pour dire qu'on est ignorant de la foi qui sauve, Éphésiens 4, 18, ça nous dit que l'humanité a l'intelligence obscurcie. Ils sont étrangers à la vie de Dieu à cause de l'ignorance. Premièrement, parce que tu ne sais pas. Si tu sais, tu es plus ignorant. Là, tu peux dire... C'est à cause que je me suis endurci, je ne veux plus rien savoir. Puis c'est ce qu'il dit dans ce verset-là. Il y a deux éléments qui font que les gens ne comprennent pas. C'est leur ignorance et à cause de leur endurcissement de leur cœur. Fait que, en partant, ce qu'on veut regarder aujourd'hui, venons-nous au monde avec la foi qui sauve? Non. Nous venons avec la capacité de croire en des choses, mais si on arrive à croire à des choses de Dieu, de la vérité de Dieu, c'est parce qu'on a reçu déjà des révélations qui viennent de Dieu. Oui, merci mon Dieu. Si nous sommes là aujourd'hui en train de glorifier Dieu, c'est parce que c'est Dieu qui nous a amenés là. Amen. Toute compréhension en ce qui concerne les choses de Dieu ne vient que de Dieu. Dans 2 Corinthiens 3, 5, Paul il le dit, c'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Fait que peu importe où ce que tu es rendu dans ta vie chrétienne, dans ton développement de ta vie spirituelle, dans ta communion avec Dieu, c'est Dieu qui t'a donné cette capacité-là. C'est Dieu qui t'emmène où ce que tu es rendu. C'est Dieu qui a déjà tout fait pour que tu aies les idées qu'il faut pour être en train de le servir. Puis il veut que tu aies encore la pensée de dire « ça vient pas de moi ». Comme Paul vient de le mentionner, c'est pas parce que je suis capable ou je suis rendu là par mes efforts ou bien par mes peines ou bien j'ai bûché fort, je me suis... Non, ça vient pas de nous. C'est Dieu qui a fait l'œuvre, puis on a simplement avancé à mesure que la révélation se faisait. T'es ouvert, tu veux l'apprendre comment ça marche, mais Dieu va t'en montrer. Si tu as soif, va boire, puis il va tout te donner ce que tu as besoin pour que tu grandisses. Sans le travail de Dieu dans le cœur, l'homme est perdu. Comme qu'on a vu, il dit, c'est impossible aux hommes. Il dit, qui peut donc être sauvé? Il dit, c'est impossible aux hommes. Mais à Dieu, tout est possible. Amen, gloire à Dieu. Il fallait qu'il fasse de quoi que l'humain n'est pas capable de faire. L'homme, par lui seul, pense que les choses de Dieu sont de la folie. L'homme normal, là, monsieur tout le monde, qui n'a pas eu les révélations, pour lui, toutes les choses de Dieu, voyons donc s'il y a un Dieu. Puis, il ne comprend pas pourquoi aussi tu veux te sanctifier, puis il ne comprend pas pourquoi tu as la foi, tu as l'assurance que tu t'en vas au ciel. Il est étranger, lui-là, il est obscurci, il est aveuglé, puis il ne comprend pas les choses de Dieu, puis il va dire, c'est de la folie. Ça, c'est la vraie nature humaine, l'homme animal. C'est ce que ça dit dans 1 Corinthiens 2, 14. Que l'homme animal, il reçoit pas les choses de l'Esprit de Dieu. L'homme humain, naturel, il faut que ça soit Dieu qui y monte parce que lui, il peut pas comprendre ça par lui-même. Puis ils sont même une folie pour lui. Puis combien de fois il y a des chrétiens qui sont fait traiter de fous parce qu'ils croient. Il croit en quoi, en fin de compte? On croit dans l'invisible. On ne le sait pas, on ne l'a pas vu, mais on a décidé. Mais on a décidé. Ça nous a été dit, on a cherché, on a été répondu, on s'est aperçu. Mais c'est l'Esprit de Dieu qui a fait le travail que je sois rendu là. Parce que moi-même, je n'aurais jamais arrivé là. Je serais encore en train de jouer avec ma bouteille. Puis là, peut-être c'est ça, Dieu, qui commence à prier ma bouteille. Parce que l'esprit humain, lui, c'est juste ce qu'il voit. Il a de la misère à penser plus loin. C'est ça que les religions, et beaucoup de religions, ils se font des statues en bois, pas en plastique ou en métal, parce que pour eux autres, ça leur prend un objet devant leurs yeux. La foi naît de la conviction que Dieu met dans le cœur. Ça commence là. C'est Dieu qui met cette conviction-là dans le cœur pour que la foi qui sauve soit là. Jésus l'a dit lui-même. Il dit dans Jean 16, 8 à 11, il dit, je vais envoyer le Saint-Esprit, le Consolateur, l'Esprit de vérité. C'est lui qui convaincra le monde en ce qui concerne. Là, il y a des points qui vont convaincre. Mais c'est lui son travail. En passant, le Saint-Esprit, c'est Dieu. C'est lui, Dieu le Saint-Esprit, qui travaille dans les cœurs pour les convaincre. Fait que si tu as eu une conviction, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui t'a convaincu. Il y a deux réponses à cela. Soit que tu dis, je m'ouvre à ça, ou soit que je ferme la porte et je m'endurcis. Dieu force pas personne, mais il a quand même fait le travail, puis tout ce qui est rendu là aujourd'hui, rend gloire à Dieu, parce que c'est grâce à ce qu'il t'a révélé. Puis un enfant de Dieu qui reconnaît qui est sauvé par grâce, il va passer sa vie à dire, c'est toujours par l'œuvre de Jésus, non pas moi, mais à lui toute la gloire. L'Esprit de Dieu travaille présentement sur tous les êtres humains. Pensez pas qu'il travaille juste sur les chrétiens. Dans Actes 2, 17, quand Jésus a dit en parlant du Saint-Esprit, dans une parole biblique, parce que c'est écrit aussi dans les prophéties de l'Ancien Testament, « Dans les derniers jours, dit Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. » Toute chair est touchée par le Saint-Esprit, sauf qu'ils sont libres de s'ouvrir ou de rejeter. Mais le Saint-Esprit, son travail, c'est des appelés. Il y a d'autres versets qui disent « Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. » S'il veut qu'ils soient sauvés, on sait, on compte sur le travail de Dieu, le travail du Saint-Esprit pour convaincre les gens qui nous entourent. On va voir un petit peu plus loin que Dieu travaille aussi avec nous pour les amener. Mais le point est, s'il y a quelqu'un qui vient à Jésus, c'est parce que c'est le Saint-Esprit qui va travailler pour le convaincre. Voyez-vous? Il s'est laissé convaincre, ses yeux sont ouverts, là il va commencer à être libre du mensonge, puis il va s'approcher de la vérité. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il est là, et qu'il les appelle, comme qu'il le fait pour chacun de nous. Si on raconte le témoignage de chacun de nous, comment est-ce qu'on a connu Jésus, comment est-ce qu'on est arrivé à comprendre que Jésus, que j'étais pécheur, puis que Jésus est mort sur la croix pour pardonner mes péchés, au point tellement d'y croire, d'être convaincu que je décide, je l'accepte comme mon sauveur. Qu'on a eu l'assurance ou la conviction. On était convaincus qu'il est mort sur la croix pour pardonner nos péchés, puis on l'a accepté. Chacun de nous, on a une expérience différente de la façon que c'est arrivé, mais c'est toujours le Saint-Esprit qui nous a amenés à comprendre, puis qui nous a ouvert les yeux tranquillement. Il y en a que ça a pris une soirée, puis il y en a que ça a pris 20 ans avant qu'ils comprennent. C'est Dieu qui travaille, puis Dieu est tout puissant. Je dis ça parce que mon frère qui est là, ça a pris 20 ans avant qu'il faut qu'il accepte le Seigneur. Gloire à Dieu! Dieu est tout puissant! Puis Dieu est patient. Puis Dieu exauce les prières. Amen. Priez avec persévérance pour ceux que vous aimez. Il est en train déjà de travailler, puis quand vous priez, il travaille encore plus fort. Il y a de quoi qui se passe dans le monde spirituel, que ça dissipe. Nos prières dissipent les attaques du diable, puis les griffes, les chaînes, les liens. Tout se débâtit pour que la conviction soit encore plus facile. Introduit dans le cœur. Le Saint-Esprit veut les amener à toutes les sauver. On prie qu'ils ne s'endurcissent pas. Puis on essaye de ne pas faire de mauvais exemples par notre vie pour que le monde se dise, c'est ça un chrétien, je ne peux rien savoir. Si là, ils nous voient y aller, puis ça les fait reculer, c'est pas mieux non plus. Il faut vivre de façon à ne pas être une occasion de chute pour les autres. Puis toujours les attirer avec l'amour. T'as-tu vu ci, puis as-tu vu ça, as-tu vu les cheveux cotonnés, puis les cheveux longs, puis les cheveux tendus vert, mauve, gris. Là, tu sais, il y en a de toutes sortes, là. Puis là, si on commence à juger et à critiquer, on est en train de travailler contre l'Esprit de Dieu qui essaie de les attirer. Qu'est-ce qui va faire qu'ils vont être attirés à venir? Notre amour. Il dit, à ceci, ils connaîtront, vous êtes mes disciples, à l'amour que vous avez les uns pour les autres. Si quelqu'un rentre, peu importe son état extérieur, c'est le Saint-Esprit qui a fait qu'il vienne s'asseoir ici, là. Peut-être qu'on n'y a même pas parlé, mais le Seigneur est capable. Peut-être qu'on y a parlé, ou qu'un autre y a parlé, peu importe le travail ou le cheminement où il est rendu, s'il est rendu là, c'est parce qu'il y a de quoi venir chercher, puis le Saint-Esprit continue à travailler dans les gens. Puis il faut respecter les gens, il faut aimer les gens, puis croire que Dieu va faire son œuvre, ben c'est par la foi que tout ça passe. On va croire que Dieu est en train de faire son œuvre pour sauver cette personne-là. Le Seigneur nous fait comprendre qu'il est là et qu'il nous appelle. C'est encore un travail du Saint-Esprit de réaliser, oh Dieu, il est là. Puis là, tu te sens tiré à parler à Dieu. Tu veux de l'aide, peut-être. T'es pris dans des choses, tu veux de l'aide. Tu peux demander à Dieu. Dieu, il exauce les prières. Il te met cette conviction-là, puis tu te sens attiré. Je me suis senti attiré. Puis je suis sûr que vous êtes tous sentis attirés. Il y a quelque chose qui s'est produit, peut-être différemment de l'un de l'autre, mais c'est le même moteur qui nous attire. Jésus le dit dans Jean 6, 44. Nul ne peut venir à moi si le Père qui m'a envoyé ne l'attire. Fait que les gens ne pouvaient pas aller à Jésus pour être sauvés s'ils n'avaient pas déjà été attirés par le Père. Le Père, c'est le Saint-Esprit. C'est le travail du Saint-Esprit de convaincre les gens et de les amener à la foi qui sauve. Il n'y avait pas ça en nos mondes. Ça s'est développé dans sa vie parce que le Saint-Esprit continue à travailler. Puis là, Jésus dit, « Je le ressusciterai au dernier jour. » Alléluia! À cause qu'on est là, on a répondu à l'appel. On a répondu à son appel. On l'a... Il est venu nous le dire. On croit qu'une confiance qui est mort pour nous, on l'a accepté comme notre sauveur. On est maintenant ses enfants. Puis là, on attend le jour où il va venir nous chercher. On a l'assurance, puis on va persévérer dans la foi jusqu'à la fin. On a l'assurance qu'il va nous garder dans cette foi jusqu'à la fin. Puis un jour, on se retrouve avec lui, puis il va nous ressusciter au dernier jour. Le dernier jour des nations, parce qu'il va nous ressusciter lorsqu'il reviendra sur un nuage. Gloire à Dieu, à son retour. Jésus a démontré qui il est. Hein? Quand il était sur la terre, là, il l'a expliqué avec ses enseignements. Il a montré à tout le monde aussi par ses miracles, ses enseignements, pour amener les gens à croire en lui. C'était pas les humains, ah, t'es Jésus, fais les œuvres du Sauveur. Ça marchait pas dans ce sens-là. C'est Jésus savait qu'il était le Sauveur, puis il a fait les œuvres du Sauveur qui a attiré les autres. Si on peut savoir que Jésus c'est le Sauveur, c'est parce qu'il a fait lui-même ses œuvres pour le démontrer avant que nous nous croyons. Donc, ça vient pas de nous, ça vient de Dieu, du travail de Dieu sur cette terre pour nous amener à la foi. Dans Jean 2, 11, ça nous dit que Jésus, qui était à Cana, en Galilée, le premier des miracles que fit Jésus, il manifesta sa gloire et ses disciples crurent en lui. Fait que s'il y a eu des gens qui ont commencé à croire dans le Messie, c'est parce que Jésus a commencé à manifester sa puissance. Il a démontré qui ce qu'il était. Il a travaillé pour convaincre les autres par ses enseignements puis par la puissance de Dieu qui a agi à travers sa vie. Tous ceux qui étaient autour ont eu l'appel. C'est pas tout le monde qui a répondu à l'appel, mais ceux qui ont avancé l'ont reçu puis ont été sauvés. Fait que le travail venait de Dieu, encore une fois, et non de l'être humain. Ce qu'on doit comprendre, par exemple, Dieu a choisi, même si tout vient de Dieu, là, c'est, on le croit qu'on n'est pas venu au monde avec la foi qui sauve, puis que c'est le travail du Saint-Esprit qui nous a amené à cette foi-là, mais il y a d'autres éléments qu'on doit comprendre pour sauver une personne, travailler au salut des gens. Parce que saviez-vous que vous êtes tous appelés à travailler au salut des gens? Tout le monde, pas juste un évangéliste qui va aller sur un coin de rue passer des pamphlets. Tout le monde est appelé à aller évangéliser, puis travailler avec Dieu pour sauver les gens. On va voir cette idée-là, que la foi doit être semée dans leur cœur, dans le cœur des gens qui nous entourent. Dieu se sert des hommes pour répandre sa connaissance qui mène à la foi authentique. Pour avoir la foi authentique, la foi qui sauve, faut que tu aies entendu des choses, une connaissance, des éléments qui t'expliquent des choses pour que les lumières s'allument. Le Saint-Esprit a décidé Il aurait pu tout faire tout seul. Il a décidé de nous utiliser pour ce travail-là, pour aller chercher ces âmes-là. Il a décidé de passer à travers ses enfants. Les gens doivent recevoir la parole pour croire en la vérité. Ils ont besoin de recevoir la parole de vérité, la Bible, la parole de Dieu. On a besoin d'entendre la parole pour arriver à la foi qui sauve. C'est encore plus un petit peu plus en détail, on va le voir dans des versets, là, que notre foi vient de la parole de Dieu qu'on a entendue. Tu peux avoir eu, avant de l'avoir entendu, la parole, tu peux avoir eu une voix qui t'a parlé, mais comment se faire savoir c'est qui cette voix-là qui t'a parlé, advenant le cas que tu aurais eu une voix qui t'a parlé? Tu peux pas savoir qui t'a parlé, à moins que quelqu'un t'explique que Jésus est ressuscité, puis il est là, puis il est présent, puis il peut répondre à tes prières. C'est parce que tu as entendu quelqu'un te dire qu'il est ressuscité, puis qu'il est là, puis qu'il peut entendre tes prières. C'est à cause de ça que tu as décidé, ou que tu es arrivé plutôt, à te laisser convaincre que ce Dieu-là existe, puis qu'il exauce les prières. Là, tu as osé le demander, puis tu as vu des exaucements de prières, tu as entendu sa voix, il t'a touché, un autre a mis sa main, il a prié pour toi, il t'a guéri, tu as senti quelque chose. Tu as des expériences que tu vis, puis qui te fait allumer ta foi. Mais la foi, c'est des semences que tu as reçues de la parole de Dieu, qui est une semence incorruptible. La parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Quiconque met sa foi dans la parole de Dieu, dans la semence de Dieu, elle va porter du fruit. La foi, c'est comme un grain de sénévé. Quand tu le mets en terre, ça pousse, ça devient un arbre. Amen.
Amen.
La foi, c'est un grain. La foi, c'est comme un grain de moutarde que une fois tu l'as reçu, ça produit quelque chose, puis ça grandit. Ou tu peux dire, moi, okay, je pile là-dessus, j'en veux pas. Mais si tu la veux, ça va grandir, ta foi va grandir. Puis je suis sûr que vous avez plus de foi aujourd'hui que vous aviez quand vous êtes venu à entendre la première fois le nom de Jésus.
Amen.
Comment c'est arrivé? C'est le Seigneur qui vous a emmené jusque-là, puis vous avez montré un paquet d'affaires, puis les versets, ça clique, puis là, vous comprenez des choses, puis plus que vous avancez dans la connaissance de la parole, plus que votre foi, elle augmente. C'est pour ça que ça prend du monde, faut réaliser, là, que ça prend du monde pour aller semer la parole. Faut semer la parole. Faut l'envoyer partout. Parce que le Seigneur va s'en servir. Dans Romains 10, 14, ça nous dit, comment donc invoqueront-ils en celui qui n'ont pas cru? Fait que, comment ça va arriver que les gens vont invoquer Dieu s'ils n'ont pas cru? Impossible, s'ils ne croient pas du cœur, ils ne l'invoqueront pas. Comment croiront-ils s'ils n'ont pas entendu parler? Comme je vous expliquais tantôt, si tu n'as jamais entendu parler, tu ne peux pas savoir c'est qui est là. Tu peux dire c'est Bouddha, tu peux dire c'est le soleil qui est Dieu, tu peux dire les nuages, tu peux dire les oiseaux, tu trouves la mère nature, l'esprit du nouvel âge, là, etc. Tu peux t'en donner des noms, mais tu sais pas c'est qui. Mais comment tu peux croire si tu n'as pas entendu parler? Puis comment entendront-ils parler s'il n'y a personne qui prêche? Paul qui dit ça. L'importance que s'il y ait quelqu'un qui prêche pour que l'autre mette sa foi dans ce que tu dis puis qu'il invoque ce Dieu-là. Il est important qu'il y ait des gens qui s'aiment. Le départ de la foi qui sauve provient premièrement de la parole de Christ, la parole de Dieu. Le Saint-Esprit se sert de la parole de Dieu pour convaincre les cœurs. Si la personne n'a rien entendu, il ne sait pas. Là, l'Esprit de Dieu travaille, il a entendu des paroles de la parole de Dieu, des semences, des petites semences. Puis là, il médite, il pense, puis là, il va finir par avoir la foi pour être capable d'invoquer. de demander, de chercher, puis de désirer ce qui se passe plus dans sa vie. Mais le Saint-Esprit sert de la parole de Dieu, puis comme je l'ai mentionné tantôt, l'Évangile, la parole de Dieu, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Il y a un autre verset qui dit, la Bible, la parole de Dieu, c'est une semence incorruptible. C'est une parole vivante et permanente de Dieu. C'est Dieu qui a permis qu'on ait la Bible dans nos mains comme étant une semence incorruptible. C'est une semence, tu sèmes. C'est une semence, tu sèmes, mais c'est une semence sans corruption. Elle est permanente, elle est vivante. Quand elle rentre dans un cœur, elle fait son travail. Faut que tu forces pour pas croire. C'est pour ça que des fois, il y a du monde qui dit, « Non, ça ne va pas! » Mais s'ils sont si robustes envers ça, c'est parce que ça travaille dans leur cœur. Sinon, ils diraient, « Ça me dérange pas, moi. Tu fasses avec ça. » Mais il y a un combat. Ça veut dire que la semence, il y a peut-être d'autres personnes qui en ont parlé, puis que là, ça a déjà travaillé. C'est une puissance de Dieu, la parole de Dieu, pour le salut. Elle est vivante. Elle pénètre l'âme et l'esprit, jointure et moelle. Elle juge les sentiments et les pensées du cœur. C'est une puissance, puis il faut la semer, c'est une semence. Puis ça prend des cultivateurs qui y répandent avec le, comment ça s'appelle ça, la machine qui jette les grains partout. Une semeuse. Mais on devra tout sortir avec notre semeuse, puis semer la parole de Dieu partout, dans toutes les villes. Parce que c'est ça qui va sauver leur vie. Ils ont besoin de ça pour comprendre, puis allumer, puis de se tourner vers le Dieu qui sauve. Jésus a envoyé ses disciples enseigner partout la bonne nouvelle. Dans Marc 16, 15, il dit, allez par tout le monde, puis prêchez. Allez par tout le monde et prêchez. Allez l'annoncer, allez semer la bonne nouvelle. Allez la répandre, la semence. Puis il le dit aussi dans Matthieu 28, faites de toutes les nations des disciples. C'est la mission. Puis là, il dit des baptisés, tout ça. Puis il dit, enseignez-leur à observer ce que je vous ai prescrit. Donc, les lieux de culte comme qu'on a, c'est un lieu pour recevoir des instructions, les enseignements, pour arriver à mettre en pratique ce que Jésus dit.
Amen.
Il n'y a pas de gros d'amen, mais ça me prend plus. On veut mettre en pratique ce que Dieu dit.
Amen.
Gloire à Dieu.
Il a pas dans les
oui. La parabole du semeur, je ne sais pas si vous vous souvenez de cette parabole-là, il y a un semeur sorti pour semer. On voit ça dans Marc 3, mais allez dans Matthieu et dans Luc. Un semeur sorti pour semer. Un semeur, oui, il sort puis il sème. C'est sa job. Là, il a semé de la semence dans la parabole, il a semé de la semence à quatre endroits différents. Il y a eu de différents pousses à chaque endroit. Il y a une place où il n'a pas eu pantoute, c'était dans le chemin. Puis après ça, il l'a mis dans où il y avait de la roche. Là. Il n'y a pas de racines, puis la semence est morte au soleil. Ça a séché là. Il a reçu la parole avec joie. Mais quand ça commençait à aller mal dans sa vie, il a décidé de tout lâcher. Mais ça poussait. C'est ça qui est le point. La parole pousse. Mais le problème, c'est dans quelle terre que ça va tomber. La terre, c'est le cœur de l'homme. Donc, ça, c'est pas notre job de savoir quel état du cœur des autres. Notre job, c'est sors pis sème. Sors pis sème. Vas-y pis sème. Puis Dieu va faire croître. Puis ça, en continuant cette idée-là, il a semé aussi dans des places qu'il y a des épines puis des ronces. Puis après ça, il y en a d'autres qui étaient dans la bonne terre. Sors puis sème. Sortons et semons.
Amen.
Nous sommes ouvriers avec Dieu pour semer la semence de la foi. On est-tu venu au monde avec la foi qui sauve? Non. Mais on a dans nos mains quelque chose qui peut faire, que ça va faire, qu'ils vont peut-être recevoir cette semence-là, puis ça va pousser dans leur cœur. Faut pas la retenir. On l'a. En quantité industrielle, on peut avoir des pamphlets que tous les versets pour le salut sont dedans. Tu peux aller le dire de bouche à oreille aussi. Tu peux avoir des Nouveaux Testaments. Tu peux avoir toutes sortes d'affaires pour pouvoir distribuer la parole pour semer. Allons semer. Semons la parole de Dieu. puis Dieu va faire croître. Dans 1 Corinthiens 3, 6, ça nous dit, j'ai planté, c'est l'apôtre Paul qui parle, il dit, Apollos, il a arrosé, mais Dieu a fait croître. Le Saint-Esprit travaille avec nous, ou plutôt, nous travaillons avec le Saint-Esprit. Nous semons, puis Dieu fait croître. Nous semons, un autre va arroser, mais Dieu va faire croître. C'est, toute la gloire revient à Dieu. Mais il nous demande d'aller semer. La foi qui sauve va grandir dans leur cœur parce que Dieu va se servir de ce qu'on a semé, puis il va toucher le cœur, puis ça va grandir. Puis c'est la parole qu'une fois tu l'as, cette petite semence-là, la grosseur d'un grain de moutarde, si tu veux, la grosseur, mais c'est pas important la grosseur. C'est ta main dans terre, ça pousse. Ça pousse, ça devient un arbre. Un grain de moutarde. Il dit dans le verset 9 de 1 Corinthiens 3, 9, il dit, nous sommes ouvriers avec Dieu. On parle pour le salut des âmes, là. On travaille avec Dieu. On est des ouvriers avec Dieu. Des fois, Dieu attend qu'on se lève, commence à en parler aussi. Parce que lui, il aimerait ça, sauver tout le monde. Mais des fois, c'est les chrétiens qui sont pas là. Il faut se lever, prendre des pamphlets, puis en donner. Les gens qu'on connaît, puis même les gens qu'on connaît pas, sont pas là pour rien autour de nous. Là. Le Saint-Esprit a de l'œuvre à faire. Je suis sûr qu'il va remplir l'Église, puis elle sera pas assez grande, on va prendre la grande salle à côté, puis elle sera pas assez grande, on va faire plus qu'un culte.
Amen.
Gloire à Dieu! Du monde qui marche par la foi. Ce qu'il faut... Ouais, c'est ça. Le fait d'être mal instruit dans les vérités bibliques va faire l'effet contraire. Nous conduira à faire fausse route. 2 Pierre 3, 16. Parce que je le dis, parce que c'est important. Je vais vous l'expliquer après. Il parle de Paul que dans toutes ses lettres, il parle des choses difficiles dans lesquelles il y a des points qui sont difficiles à comprendre, dont les personnes ignorantes ou mal affermis, tordent le sens comme celui des autres Écritures pour leur propre ruine. Fait qu'il y a des gens qu'au lieu d'avoir reçu la semence incorruptible qui est la vérité, l'avoir reçue comme étant la semence de vérité, ils ont commencé à la tordre. C'est comme ils ont essayé de la changer génétiquement. Elle aurait été due pour faire un effet et t'amener par là. Puis eux autres, ils ont dit non, c'est pas ça vraiment que ça veut dire. Puis le mensonge qu'ils ont trafiqué les amène dans l'autre direction. Fait qu'il y a bien des religions sur la terre, mais il y a juste une seule Bible. Toutes les Bibles sont pareilles, mais il y a des milliers de religions. C'est parce qu'il y a quelqu'un quelque part qui trafique. Ça est important parce qu'il dit, quand tu es ignorant, c'est parce que tu le sais pas, ou tu as été mal affermi, ça veut dire que tu as entendu des enseignements, mais tes enseignements étaient erronés. Fait que les personnes qui ont eu des enseignements erronés, qui transmettent ça aux autres, tout le monde s'en va vers la ruine. Ça sauve pas des enseignements erronés. Faut que tu sois à cheval dans la vérité qui sauve. S'il y a juste une vérité, c'est Jésus qui est mort sur la croix pour pardonner nos péchés. C'est pas un saint, c'est pas un ange, c'est pas autre chose que Jésus qui était Dieu lui-même, qui est fait homme, qui est mort sur la croix pour verser son sang, pour expier la dette des péchés. Puis là, tu t'en te repentir de tes péchés, à demander pardon. Tu réalises tes pécheurs, que tu peux pas être sauvé parce que t'es pécheur, mais tu crois que Jésus est mort pour toi, tu l'acceptes comme ton sauveur, tu y crois, tu le reçois, tu lui dis oui, je veux. À cause de cela, ben, qu'un Seigneur te pardonne tes péchés, puis te donne son Saint-Esprit, il inscrit ton nom dans le livre de vie, puis là, il dit, marche avec moi, reste dans le chemin resserré jusqu'à la fin de ta vie. Quand on marche dans ce chemin-là, puis qu'on arrive au bout dans la foi, en gardant la foi qui sauve, tu fais partie de la gang qui va être là. Mais ceux qui sont ignorants, puis mal affermis, c'est pour leur ruine. C'est ça que ça dit le texte. Le dernier verset que je vous apporte, aujourd'hui, la parole de Dieu a presque atteint toutes ses créatures. Presque. Pas encore à 100%. Puis lorsque les derniers l'entendront, alors viendra la fin. Il est important de faire le travail, puis dans les plus brefs délais, pour qu'il y en ait le plus grand nombre des Canadiens français, peut-être même des Anglais. J'ai rien contre les Anglais. On veut que les Français et les Anglais et toutes les langues qu'il y a ici, on est multiculturel à cette heure, mais qu'il y en ait de toutes les races, de toutes tribus, de tout peuple, de toute langue qui se tiennent devant le trône, parce qu'ils auront rentré en répondant à l'appel l'Esprit, le Saint-Esprit et l'Épouse, qui est l'Église, disent « Viens ». Là, on appelle les gens à être sauvés, puis le Saint-Esprit travaille, puis l'Église avec, puis on fait la cueillette. On les amène à recevoir le cadeau. Et Jésus, dans Matthieu 24, 14, il dit « Cette bonne nouvelle du royaume, ça c'est l'Évangile, la parole de Dieu, sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. » Il faut qu'il y en ait de toutes les nations l'autre bord. Alors viendra la fin. Fait qu'on a encore du travail à faire, frères et sœurs. Puis ça ne dit pas le nombre qu'il va y avoir de Québécois. J'espère qu'il y a beaucoup de Québécois au ciel. Puis je crois que Dieu est en train d'agir, puis il va en avoir beaucoup de Québécois au ciel. Il y a beaucoup de peuples. Il va en avoir de tous les peuples dans le ciel. Mais on prie qu'il y ait beaucoup de Québécois dans le ciel.
Amen.
Prions. Levons-nous, allons semer, puis le Seigneur va faire le reste. Prions. Seigneur, je te remercie de ta parole qui nous révèle que ta parole, c'est la semence, puis que nous sommes ceux qui doivent voler la semer. Je te demande de mettre dans nos cœurs, dans le cœur de chaque personne qui sont ici, premièrement, de répondre à ton appel pour te recevoir comme sauveur, puis deuxièmement, qu'on se lève pour aller travailler dans ta moisson, dans cette riche moisson d'âmes que tu veux faire ici au Québec. On croit que tu es en train d'agir, puis il va y avoir une multitude qui vont se convertir. Je te demande de nous utiliser, de nous montrer quel est notre rôle dans tout cela, puis que tout le monde travaille à ta grande commission. Seigneur, merci de ce que tu vas faire. Tu nous connais bien plus qu'on se connaît. Viens enlever de nos esprits, de nos pensées, de nos manières de vivre, tout ce qui n'est pas de toi, pour qu'on puisse être à plein temps dans ton œuvre. Nous remettons nos ventres entre tes mains, Seigneur, dans le nom de ton Fils Jésus-Christ. Amen.
Amen.